RFI, grand reportage.
Dominique de Courcelles, Thierry Parizeau.
Les Russes votent dimanche pour une élection présidentielle sans suspense. Dimitri Medvedev, le candidat adoubé par Vladimir Poutine, a toutes les chances de s'installer au Kremlin. Et les deux amis de 17 ans ont même déjà écrit la suite du scénario. Medvedev, président, proposera le poste de Premier ministre à Poutine. Et Poutine a déjà fait savoir qu'il l'accepterait. Les Russes votent dimanche donc. Sont-ils résignés ou enthousiastes? Les années Poutine ont-elles changé leur vie? Ressentent-ils les bienfaits de la stabilité et du développement économique dont le Kremlin se gargarise? S'inquiètent-ils des atteintes à la démocratie ou à la liberté d'expression? Qu'attendent-ils de l'avenir? Comme l'affirmait le président Poutine dans l'un de ses derniers discours avant le scrutin, la Russie est-elle en passe de devenir le pays le plus agréable à vivre au monde? Beaucoup de questions, et pour y répondre, des Russes de Saint-Pétersbourg et de Moscou, et loin des deux capitales, des Russes de la mer Noire, de la Sibérie et du Caucase. Portrait de Russie, reportage de Dominique de Courcelles et Thierry Parizeau. Rue Pushkin à Saint-Pétersbourg, rendez-vous est pris au centre de l'art non-conformiste avec Yuli Rybakov. Artiste, c'est le patron de ce centre unique en Russie, dissident depuis sa plus tendre enfance, il est même né en prison. Avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme, ancien député du temps où les indépendants pouvaient encore gagner un siège à la Douma, Yuli Rybakov a 61 ans.
J'ai vécu une longue vie et je n'ai plus peur de rien.
Sur la porte de son bureau, une étrange photo. Yuli Rybakov, la stature d'un géant, se penche à l'oreille d'un Vladimir Poutine qui ressemble, en comparaison, à un nain.
Cette photographie illustre un petit épisode de ma vie. Ça remonte à 6-7 ans. J'étais député à l'époque et après une réunion avec le gouvernement, je me suis approché du chef de l'État pour lui parler d'un de mes amis. Il s'agissait du directeur d'une chaîne de télévision qui avait été condamné à 4 ans de prison pour des accusations sans aucun fondement. J'ai dit à M. Poutine que cet ami souffrait d'une grave maladie, qu'il risquait de ne pas survivre en prison. Le président m'a promis de régler cette question, mais comme à son habitude, il n'a rien fait. Finalement, mon ami a dû purger toute sa peine et il est mort quelques jours après sa libération.
Voici donc comment Yuli Rybakov introduit l'histoire de ses relations avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.
La Russie prenait le chemin de la liberté dans des conditions économiques et sociales très difficiles. Elle essayait d'avancer sur le chemin de la liberté. Avec l'arrivée du président Poutine, ce chemin a été interrompu. Ça s'est fait dans l'indifférence la plus complète de la société. Parce qu'avec la démocratisation à la fin des années 80, les Russes ont vu arriver le meilleur, la liberté enfin, mais aussi le pire, les problèmes d'argent, le désordre, la pauvreté. Et finalement, ils sont devenus nostalgiques de l'époque ancienne, faite d'ordre et de sécurité. Poutine est arrivé, il a promis l'ordre et la loi, il a fait ses promesses sur fond d'actes terroristes à Moscou et de guerre en Tchétchénie. Les gens étaient fatigués, leur vie était difficile et ils l'ont cru.
Résultat, 8 ans plus tard, le tableau de Yuli Rybakov est sombre.
Poutine n'a pas remis de l'ordre dans le pays. Il a introduit dans la société la peur et l'esclavage. Le nationalisme augmente chaque jour un peu plus. Un nationalisme qui s'apparente maintenant à du fascisme. Le Caucase n'est pas pacifié, c'est vrai. Il n'y a plus d'attentats suicides dans les rues de Moscou. Mais dans des régions comme l'Ingouchie, la situation est devenue incontrôlable.
Il fait nuit noire à Saint-Pétersbourg, le bureau de Rybakov est faiblement éclairé et la voix de plus en plus crépusculaire.
Autrefois, je me battais contre le communisme, c'était à l'époque soviétique, et pour ce combat, j'ai passé 6 ans en prison. Aujourd'hui, je suis libre en ce moment, mais je ne sais pas ce qui peut arriver demain, car j'ai beaucoup d'amis qui ont souffert, qui parfois sont morts, en luttant contre le régime qui existe aujourd'hui, des gens qui se sont battus et sans succès.
Alors pourquoi se battre encore? Pourquoi rédiger un nouveau rapport sur les crimes racistes? Pourquoi organiser une exposition sur le thème même attention fascisme? Pourquoi toujours sans cesse interroger les autorités à propos des attentats de 99 à Moscou qui ont fait une centaine de morts? La version officielle les attribue aux rebelles tchétchènes, Rybakov et d'autres pointent du doigt toutes les incohérences de l'enquête et ils s'interrogent à haute voix sur le rôle des services secrets dans cette affaire. Pourquoi ?
La vie de ce pays ne va pas se terminer avec Vladimir Poutine. Les jeunes vont un jour comprendre la valeur de la liberté. Ils vont arriver au pouvoir avec la conviction qu'il faut tout changer. La jeune génération va un jour se libérer de la musique horrible qu'elle écoute et de la même façon, elle va se libérer de la politique horrible qu'elle subit, mais dont elle est aussi aujourd'hui complice.
Une station de métro en bout de ligne à côté du grand parc d'Izmaïlovo dans le nord-est de Moscou. Alexandre Romanov, 24 ans, partage avec son cousin un petit appartement, une pièce cuisine. Dans son coin, au-dessus du lit, un immense drapeau américain.
J'ai travaillé aux États-Unis au supermarché. C'était en stage pendant 7 mois. Et après, je faisais un voyage partout aux États-Unis. New York, Chicago, Denver, San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Las Vegas. Je l'adore, c'est un pays magnifique.
De retour en Russie, Alexandre postule auprès de différentes compagnies, toutes basées à Moscou et toutes étrangères. Il est embauché comme ingénieur dans l'usine d'une entreprise française d'automobile.
Je peux dire que la culture est trop différente que la culture des entreprises russes. Parce qu'ici, j'ai vu que les chefs sont très proches avec ses subordonnés. C'est bien payé par rapport aux autres entreprises russes. Ça fait 1200 euros. C'est bien payé.
1200 euros par mois, Alexandre fait donc partie de cette nouvelle classe moyenne russe. 600 euros de loyer à payer tout de même, mais ils sont deux pour le verser, et 4 semaines de vacances par an.
Je pense que tous les pays, je dois les visiter. Je suis déjà allé aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne, Tunisie, en Roumanie, et je vais visiter Thaïlande.
Alexandre Romanov veut voir le monde, mais contrairement à beaucoup de jeunes de sa génération, ça ne l'éloigne pas de la politique.
Je m'intéresse beaucoup à la politique.
Et comme 60, 70 ou 80% des Russes, selon les sondages...
Je vais voter pour Dmitri Medvedev et je vais expliquer pourquoi. Je supporte M. Poutine, bien sûr, je supporte son politique interne en Russie, parce que maintenant la Russie elle est grande. Nous avons modernisé notre armée. La situation interne, par exemple en Tchétchénie, maintenant est calme. Troisième chose, les salaires des classes moyennes ont augmenté et maintenant c'est bien payé. En gros, Dmitri Medvedev, je pense il doit continuer de travailler à la façon de M. Poutine. C'est pas possible de voir ici en démocratie occidentale.
Des salaires comme en Europe, oui. Des magasins comme en Europe, oui. Des vacances, des voyages, oui. Mais la démocratie, non. Pourquoi ?
Pour nous, pour le peuple russe, de voir un président fort, avec un pouvoir fort, c'est une tradition de la Russie. Et on ne peut pas appliquer les mêmes moyens comme en Europe, ça ne marchera pas.
Novosibirsk, Sibérie occidentale, 4000 km à l'est de Moscou, 3 jours par le Transsibérien, ce train qui est à l'origine de la fondation de la ville. À 30 km de Novosibirsk, la cité des savants, Akadem Gorodok, où vit Gertrude Bagaeva, 90 ans aujourd'hui même, la seule sibérienne à avoir reçu l'ordre du mérite des mains de Jacques Chirac, son exploit, avoir fait vivre le français en Sibérie. Gertrude Bagaeva.
Quand j'étais encore enfant, j'ai lu avec grand plaisir « Guerre et paix » de Tolstoï. Et comme là, il y a toutes les pages en français, c'était très, très fatigant de regarder toujours, chercher où il y a la traduction et tout, et ça m'embêtait. Et j'ai décidé d'apprendre le français un jour.
Mais alors, vous êtes née en Sibérie et très vite, vous êtes allée à Saint-Pétersbourg.
Oui, je suis née au fond de Sibérie, au nord, beaucoup plus au nord que ici. Et oui, et après, ma mère a décidé que je dois apprendre, je dois faire mes études, justement, à Moscou, à Leningrad. Je suis allée à Leningrad, à Saint-Pétersbourg maintenant. Je suis restée là pendant 7 ans.
Vous avez décidé quand même de revenir en Sibérie et de vous donner ce formidable défi de trouver des francophones ou de fabriquer des francophones en Sibérie.
Justement fabriquer parce qu'il y avait très peu de professeurs de français. J'ai écrit une lettre à Ilya Ehrenburg, qui était à l'époque le président de notre association URSS France. Et j'ai écrit que voilà, il n'y a presque pas d'enseignement de français, et malgré les lois qui dictaient que 20% devait être consacré au français. Et il s'est adressé au ministère et on a reçu tout de suite un ordre de régler la situation. Et on a commencé à former les professeurs de français, on a inauguré la faculté de français. Et...
Vous avez fondé le club français, c'est-à-dire qu'à une époque, pendant la période dure du communisme, où les gens ne pouvaient pas sortir du pays, vous avez permis à ceux qui parlaient français, au fond, aux savants, aux scientifiques, de se rencontrer et d'échanger en français.
Oui, justement, c'était une seule possibilité pour les gens de voir des Français, vivants, comme on dit chez nous, et de communiquer avec les Français et de connaître directement tout ce qui concerne. La ville était fermée, c'est-à-dire que les étrangers n'étaient pas admis en Novosibirsk. Notre Kayam-Garadok, c'était une exception. Et justement ici, il y avait beaucoup de Français, il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient aux conférences, aux symposiums.
Alors vous avez des grands hommes, des gens prestigieux qui sont venus ici.
Oui, oui, il y avait même Kantarovitch qui est devenu après le lauréat du prix Nobel, et même notre président, le premier président de l'Académie, Lavrentiev, il connaissait bien le français aussi. Il a fait ses études à la Sorbonne. Le général de Gaulle est venu ici. On aime beaucoup le général de Gaulle, même je crois que même nous l'aimons plus que vous.
Vous avez traversé multiples régimes, la guerre, des régimes extrêmement difficiles. Quel est votre regard sur l'époque d'aujourd'hui?
Mais on est libre maintenant, on peut dire n'importe quoi, on peut dire tout ce que vous voulez. Autrefois, et surtout, voilà, même à Kayam-Garadok, malgré toutes les exceptions, et une liberté relative, on peut dire. Pour inviter un Français au club, il fallait toujours demander l'autorisation à KGB. Et pour montrer un film français, il fallait que ce film passe par une commission qui était composée des représentants des autorités, du parti, etc. Maintenant, on ne peut pas comparer, c'est tout à fait autre ville.
Café La Fleur, en français dans le texte, à Rostov-sur-le-Don, une métropole d'un million d'habitants dans le sud de la Russie, près de la frontière avec l'Ukraine. Ambiance décontractée pour rencontrer Elena Maltova, directrice d'une agence matrimoniale internationale. Ses clientes sont des femmes russes qu'elle met en contact avec des hommes français ou en tout cas de l'ouest de l'Europe.
Les femmes en France ou en Europe, elles sont trop émancipées. Les valeurs familiales ne jouent plus un grand rôle pour ces femmes européennes. Elles préfèrent faire carrière plutôt que fonder une famille, avoir des enfants ou s'occuper de leur ménage. Les femmes russes, c'est différent. Elles recherchent la même chose que les hommes occidentaux qui nous contactent. Elles veulent une famille et des enfants.
Elena Maltova a apporté avec elle deux profils types, comme elle dit. Evgenia d'abord, 35 ans, employée de banque.
Moi, je veux être heureuse et je cherche avec qui.
Evgenia a été mariée pendant 7 ans, elle est aujourd'hui divorcée.
En fait, je ne cherche rien d'extraordinaire. Je veux fonder une famille traditionnelle avec un mari qui serait attentif, respectueux et avec des enfants, bien sûr. C'est sans doute inscrit dans nos gènes. Les femmes russes, on a envie d'avoir des enfants. On adore faire la cuisine, on aime faire du ménage, embellir notre intérieur et notre cadre de vie. Génétiquement, on a envie de s'occuper de notre conjoint et de nos enfants aussi et de la maison, bien sûr.
Mariée puis divorcée, Olga, 37 ans, travaille dans une agence de publicité. Elle cherche, elle aussi, un nouveau mari.
Ces dernières années, les valeurs familiales traditionnelles ont beaucoup évolué. Tout change beaucoup et très vite. Ça devient difficile de trouver quelqu'un pour partager sa vie. Mais je garde espoir, car le gouvernement a déclaré l'année 2008 année de la famille en Russie. J'aurais peut-être un peu plus de chance.
Elle cherche elle aussi un nouveau mari, si possible, pas russe.
Je ne voudrais pas dire de mal des hommes russes, mais le fait est que les valeurs ont beaucoup changé aujourd'hui. L'homme en Russie, son objectif principal, c'est de monter un business, c'est de gagner de l'argent le plus possible. C'est comme si l'argent avait remplacé toutes les autres valeurs, le couple, la famille, les enfants, toutes ces valeurs traditionnelles qui avaient cours dans ce pays avant la perestroïka. En plus, tous les hommes ne réussissent pas à faire carrière ou à faire fortune. La grande majorité n'y arrive pas. Bon, attention, hein, il y a aussi des hommes russes qui seraient dignes de nos éloges.
En attendant, Olga profite de son relatif confort financier, un voyage en France l'an dernier et l'Italie prévue pour cette année.
Nos conditions matérielles s'améliorent, oui, mais si je pouvais me remarier, est-ce que ce serait encore mieux?
Evgenia trouve aussi la vie de plus en plus confortable financièrement.
Je voyage beaucoup plus maintenant. J'adore la mer, mais dernièrement, je suis allée en vacances dans les Alpes. C'était très beau.
Stavropol, la ville est encore dans la plaine, mais au loin on aperçoit les premiers contreforts du Caucase. La Tchétchénie est toute proche. Stavropol, tout en bas de la rue Lénine, le tramway passe devant un alignement parfait d'immeubles sans charme des années 50. Svetlana habite ici, Svetlana, 38 ans, réfugiée russe de Tchétchénie.
À peine 1% peut-être des Russes sont restés. En fait, tout le monde ou presque est parti.
Et y retourner aujourd'hui?
Je n'y pense même pas, c'est hors de question que j'y retourne.
Comme tous les Russes, Svetlana a vu à la télévision les images de reconstruction de Grozny, la réouverture d'une ligne aérienne entre Moscou et la capitale tchétchène.
C'est facile, oui, d'aller en Tchétchénie. Depuis Stavropol, il suffit de prendre un bus ou le train et on arrive à Grozny. Mais ça reste toujours dangereux d'aller là-bas. Ça me fait toujours peur. Je suis née à Grozny et dans l'idéal, je rêve de revoir ma ville natale. Mais y revivre, c'est impossible. Ce serait juste comme une excursion. Je ne vais pas risquer ma vie pour une excursion. Mais à défaut d'y retourner, je m'intéresse à tout ce qui s'y passe. Je travaille d'ailleurs pour un site internet d'information sur le Caucase et par ce biais, j'ai l'impression de toujours bien connaître la Tchétchénie.
Svetlana vit dans un petit appartement, un salon qui lui sert de chambre et de bureau, une cuisine, une salle de bain. Elle a deux filles. La plus jeune est née au début de la première guerre de Tchétchénie, elle a 13 ans. Ses enfants n'habitent pas avec elle, faute de place ici et faute de moyens financiers suffisants. Ils sont chez ses parents, réfugiés eux aussi à Stavropol.
Je n'ai aucune aide financière. Pour ce petit appartement où j'habite, je paye le loyer entièrement sans bénéficier de la moindre allocation. Comme tous les réfugiés qui ont dû quitter Grozny, je dois me débrouiller seule. Je ne peux compter que sur moi pour survivre, pour m'installer quelque part, pour trouver un emploi, pour trouver un logement. Et dans cette grande loterie, il y a ceux qui périssent et il y a ceux qui survivent, sans le plus petit soutien de l'État.
Au terme de la loi, le statut de réfugié donne droit automatiquement à un logement. En 2007, dans le district de Stavropol, 49 personnes ont obtenu cet appartement tant convoité. Au 1er janvier de cette année, 1051 familles de réfugiés sont sur les listes d'attente. Svetlana s'est donc livrée à un petit calcul.
À raison de 49 familles par an, il faudra attendre 20 ans pour que les derniers soient logés.
Depuis qu'elle vit à Stavropol, Svetlana a vu de nombreux réfugiés venir s'installer ici, des Russes comme elle, des Tchétchènes et puis plus tard des gens d'Ingouchie, du Daghestan.
Il y a seulement une dizaine d'années, à Stavropol, il n'y avait pratiquement que des Russes, que des Slaves, comme on dit. Maintenant, avec l'arrivée de tous ces réfugiés, de toutes ces nationalités différentes, on observe de nouveaux conflits. Alors, il ne s'agit pas de conflits armés, c'est plutôt des tensions, des incidents. Mais les groupes les plus radicaux, les mouvements ultranationalistes, veulent faire monter la pression, c'est sûr.
Incidents, tensions, meurtres aussi. Un Tchétchène battu à mort l'an dernier, puis deux étudiants russes assassinés. Selon la police, les deux affaires ne sont pas liées. Mais des groupes ultranationalistes ont dans la foulée manifesté pour la défense des Slaves de Stavropol. Et ils ont défilé en criant « On n'en a pas encore assez tué des Tchétchènes ». Svetlana pense-t-elle déjà à quitter Stavropol ?
Pour l'instant, je vis ici. Et pour l'instant, je ne vois rien venir qui nous mette, moi et mes filles, en danger. Rien qui ne me pousse à partir à nouveau vers une autre région. Je crois qu'on peut encore rester ici.
Portrait de Russie, un reportage signé Dominique de Courcelles et Thierry Parizeau.